Bonjour à tous et bienvenue sur Radio G, à cette première émission, le 4-9 en transition. Toutes les deux semaines, nous aborderons la transition écologique dans le Maine-et-Loire. Nous avons tous entendu, vu les ravages que nous faisons subir à notre planète, mais tous nous souhaitons aller de l'avant en travaillant sur notre transition écologique et environnementale. Vous avez un potager, vous allez réduire vos déchets, vous êtes en train de refaire l'isolation de la maison, ou bien vous privilégiez le vélo dans vos déplacements. Autant de sujets qui contribuent à votre, que dis-je, à notre transition écologique. Qu'en est-il de la biodiversité, de la nature en ville? Ces aménagements qui favorisent dans nos rues l'émergence des zones ombragées, des îlots de fraîcheur, des toitures végétalisées qui contribuent à la climatisation naturelle de nos habitats. Alors parlons-en. Bienvenue sur le 4-9 en transition sur Radio G. À chaque émission, une nouvelle rencontre avec les acteurs de cette transition au plus près de chez nous. Aujourd'hui, pour débuter les hostilités, nous allons parler d'urbanisme et d'environnement. Avez-vous déjà franchi une passerelle à vélo en profitant de cette vue sublime sur la Maine? Avez-vous déjà visité un village fleuri en pensant qu'en plus d'être magnifique, les abeilles et autres insectes avaient l'air de s'y plaire, tout comme ses habitants? N'avez-vous pas déjà pesté devant ces trottoirs non désherbés et ces plates-bandes en friche qui semblent laissées à l'abandon? Pour évoquer tout cela, aujourd'hui, j'ai convié Monsieur Jean-Pierre Ducos, directeur du CAUE du Maine-et-Loire. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Maine-et-Loire. Jean-Pierre Ducos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de cette association. Laissez-moi le redire, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Maine-et-Loire. Est-ce que j'ai bon?
Tout juste.
Racontez-nous un peu l'histoire du CAUE, Monsieur Ducos.
Alors je devrais dire les CAUE, puisque en fait ce sont des structures qui existent depuis 1977. C'est la loi sur l'architecture qui donne la possibilité au département, ça n'est pas une obligation, de créer ces structures. Il y a aujourd'hui à peu près 93 CAUE en France et dans les départements outre-mer. Et nos métiers, ben, ils sont contenus dans le cycle, ben, conseiller les particuliers, les collectivités territoriales, sur tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, et plus particulièrement sur les questions d'architecture, d'urbanisme, d'environnement.
D'accord. Et depuis quand, le CAUE du Maine-et-Loire?
Depuis 1979.
Et oui, donc ça remonte un petit peu quand même.
Un peu plus d'une quarantaine d'années maintenant, oui.
D'accord. Combien de personnes y travaillent?
9 personnes.
Ah oui, d'accord. C'est une petite équipe.
Petite équipe pour un département qui est quand même assez grand. Ouais,
ouais, ouais. Oui, ça vous fait quand même pas mal de travail, je pense.
Beaucoup.
comment vous définiriez les différentes missions du CAUE?
Alors effectivement, j'aurais dû presque commencer par ça en évoquant le terme CAUE. La loi de 77 définit effectivement nos missions. Elles sont au nombre de 4. La loi ne le dit pas exactement comme ça, mais on a d'abord une mission de conseil aux particuliers. On est souvent connu par cette mission-là, qui est une mission de service public, gratuite pour les particuliers, j'y reviendrai sans doute. Donc c'est conseiller en fait toute personne qui a un projet de rénovation, de construction. Donc c'est un conseil qui est très adossé aux questions d'habitat et de logement. La deuxième mission, alors qui nous occupe beaucoup dans le Maine-et-Loire, c'est un peu une tradition, c'est le conseil aux collectivités locales. Donc conseiller en fait surtout les mairies, les communautés de communes, dans tous leurs projets d'aménagement, création d'équipements publics, aménagement d'espaces publics. Alors il faut que je précise, c'est que cette mission de conseil est quand même très encadrée, c'est-à-dire on ne peut pas se substituer aux architectes, aux paysagistes, aux urbanistes libéraux. Donc on intervient sur les phases très en amont des projets, on n'est pas sur la conception et la réalisation. La troisième mission, c'est une mission de formation, alors qui est très large, hein, c'est former les élus, c'est former les futurs professionnels, c'est aussi former les professionnels en activité sur des thématiques particulières. Et puis la dernière mission, c'est une mission très ouverte, très générique, de diffusion culturelle, c'est-à-dire apporter de l'information, faire de la sensibilisation, toujours dans nos champs de compétences.
C'est super, vous répondez mes questions avant que je les ai posées. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet qui m'intéresse moi, enfin qui nous intéresse nous dans cette émission. Depuis quand est-ce que vous avez constaté l'émergence de la question environnementale et écologique dans votre métier, dans votre travail?
Alors c'est une très bonne question. Dans le sigle CAUE, il y a le E d'environnement, donc ça veut dire que dès les années 70, cette dimension-là faisait partie de nos missions, et en tout cas des enjeux que l'on devait intégrer dans nos métiers. Mais il y a quand même une forte émergence depuis les années 2000. Et pour faire le lien avec les questions d'urbanisme, l'année 2000 est une année fondatrice, même je devrais dire refondatrice, de l'urbanisme en France. Puisqu'il y a une loi, alors je vais employer des sigles qui ne parlent pas au grand public, mais la loi SRU, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, qui refonde complètement le cadre de l'urbanisme autour des enjeux environnementaux. Et c'est la particularité de cette date et cette loi, c'est qu'on va réinterroger ce que l'on a fait quasiment pendant un demi-siècle, le règne de la maison individuelle, le règne du déplacement automobile par la voiture individuelle. Et on va essayer de retourner cette situation en privilégiant un travail un peu plus collectif, le fait de privilégier les transports en commun. Et surtout l'enjeu derrière ces termes, c'est adosser le projet urbain à la prise en compte de l'environnement. Et parmi les grands enjeux du moment, et encore fortement aujourd'hui, le premier d'entre tous, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à ce changement. Mais on pourrait parler aussi de biodiversité, de qualité de l'air, etc.
Comment les communes avec qui vous travaillez, elles vont dans ce sens? Est-ce qu'elles sont effrayées par le changement climatique? Est-ce que, et l'urgence de travailler à cette mise en place, est-ce qu'elle, vous la sentez beaucoup?
Il y a une évolution là encore. Bon, les CEU existent depuis 40 ans, donc en 40 ans, c'est à la fois court et long. On a assisté à une profonde évolution et surtout une prise de conscience. Parler d'environnement, d'écologie, de biodiversité, il y a encore 5 ou 6 ans, dans certaines réunions avec des élus, le sujet aurait été compliqué. Je pense que même sur certains aspects, on nous aurait fait rapidement comprendre qu'on était des écologistes patentés et que finalement on était là des empêcheurs de toucher des militants, voilà, des militants peu fréquentables. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Pour différentes raisons, parce que déjà la société a évolué et puis cette prise de conscience, elle fait partie de nos sociétés. Les élus sont aussi, comme nous, des citoyens, donc je pense qu'ils sont impactés par cette prise de conscience. Il y a le cadre réglementaire et législatif que j'ai évoqué, donc notamment à partir des années 2000 et plus fortement chaque jour qui passe, les textes de loi vont dans ce sens-là. Donc voilà, il y a la convergence, je dirais, d'une prise de conscience sociétale, d'un contexte réglementaire qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, les élus ne sont pas rétifs à ces questions. Au contraire, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience parce que tout simplement, ça fait partie aussi des éléments que nos concitoyens font remonter, émerger. Donc, et puis, au-delà de ça, si on s'intéresse à ces sujets-là, de toute façon, c'est une nécessité absolue. On ne peut pas continuer, je dirais, à avoir notre relation à l'aménagement du territoire avec, le même regard et les mêmes préoccupations qu'il y a un demi-siècle.
Au niveau des les villages ou les villes, en fonction de la taille, je suppose que les demandes ne sont pas les mêmes. En fonction du budget aussi d'une commune, les accompagnements que vous proposez, ils sont individualisés, ils sont personnalisé, on dirait mieux ou...
Oui, bien sûr. Alors, les problématiques sont souvent les mêmes. Elles sont plus ou moins développées en termes d'échelle, en fonction de la taille de la commune, évidemment. Mais les problématiques sont souvent les mêmes. La question, par exemple, du réchauffement climatique, elle se pose de la même manière quand on est une commune de 300 habitants ou de 30 000. Par contre, les moyens d'agir, effectivement, ne vont pas être les mêmes. Alors, déjà, les moyens d'agir d'un point de vue financier. Mais finalement, on peut agir aussi localement. Avant le début de notre entretien, on parlait des aménagements dans une petite commune. Paradoxalement, c'est souvent dans les petites communes où, par des actions très simples, on peut agir déjà de manière significative. Commencer à désimperméabiliser des stationnements, des accotements pour introduire du végétal, c'est déjà un début d'action. Voilà. Et souvent, il ne faut pas beaucoup de moyens. Il faut parfois mobiliser... les citoyens, ça coûte pas cher le bénévolat. On peut trouver des entreprises qui peuvent agir sans que ce soit des sommes pharaoniques. Donc il y a moyen d'agir. Il faut évidemment, comme on l'avait dit, adapter au contexte, adapter aux problématiques, adapter aux moyens humains, techniques dont disposent les communes. Mais je dirais, il n'y a pas de situation, de contexte qui soit exclu a priori de ces objectifs-là.
On aborde directement la question des cimetières et des trottoirs qui sont, avec l'interdiction d'utilisation des pesticides et des herbicides et aussi des fongicides depuis 2020.
Alors c'est effectivement un sujet d'actualité. Dans ces questions, ce qui émerge souvent, c'est les sujets qui sont perçus comme des éléments de contrainte. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, la question de la gestion des cimetières est un sujet qui est souvent récurrent, du fait, depuis la loi Labbé, l'interdiction des produits phytosanitaires dans tous les espaces publics, alors avec des dates qui ont été adaptées pour pouvoir permettre encore aux collectivités de mettre en place des solutions alternatives sur les cimetières, sur les espaces sportifs. Alors, effectivement, ça, c'est un sujet un peu compliqué. Alors, il n'est pas compliqué sur le plan technique, je vais vous dire. Parce qu'en substance, et ça va être un peu le contrepoint de ce que les gens ont en tête, et parfois les élus, le plus simple, c'est de laisser enherber. Parce que c'est plus facile de tondre que de désherber, mécaniquement ou chimiquement. Voilà. Mais alors, au-delà de la réponse technique, la difficulté, elle est plutôt, je dirais, sociétale. C'est-à-dire que on comprend les riverains, les gens d'un village qui ont leur famille enterrée dans le cimetière, et la volonté, je dirais, d'avoir un lieu qui honore les morts. Donc ça, ça fait partie de notre culture aussi, chrétienne, de respect des morts, etc. Mais on peut commencer à construire un petit discours sur le fait d'interroger, d'interpeller ces personnes sur le fait, est-ce que le fait de mettre des produits phytosanitaires là, sur le lieu où sont enterrés vos défunts, c'est respectueux? Alors ça paraît propre en surface, mais c'est éminemment pollué en profondeur. Donc voilà, on essaie de retourner la situation pour essayer de faire comprendre qu'on peut créer un cadre finalement attractif pour nos défunts, en introduisant plutôt du végétal plutôt que d'essayer de l'éradiquer, qu'en enlevant les produits phyto, on est peut-être un peu plus respectueux des défunts qui sont là. Et puis au-delà de ça, après on est dans le subjectif, mais un cimetière enherbé, végétalisé, est quand même plus attractif qu'un cimetière minéralisé. Alors même si on souhaite y passer le moins de temps possible, y arriver le plus tard possible. Ben voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont évolué concrètement, puisque sur le département du Maine-et-Loire, vous avez beaucoup de collectivités qui ont déjà mis en place cette transition écologique. On pourrait citer pas mal d'exemples sur la ville d'Angers. C'est déjà une politique qui s'est mise en œuvre. Et puis en secteur périurbain ou rural, je pourrais citer par exemple le cimetière de Durtal, qui est un bon exemple de transition avec un projet très porté politiquement qui n'a pas été facile. Et aujourd'hui, vous allez sur le cimetière de Durtal, c'est d'abord une vaste prairie enherbée au milieu de laquelle on a voilà, les tombes et les columbariums. Et donc c'est devenu un espace, je ne vais pas dire attractif, mais qui est quand même plus accueillant.
Cela dit, enfin, comment c'était avant? C'est-à-dire qu'avant ça, la question, en tout cas pour vous, elle ne vous était pas posée. On ne vous abordait pas pour travailler sur les
Non,
cimetières.
elle n'était pas posée. Alors, elle l'était dans certaines communes qui étaient déjà engagées sur une réflexion, un projet de requalification des espaces publics. On a dans nos communes beaucoup d'espaces publics qui sont l'héritage d'un aménagement des espaces publics d'après-guerre, où en fait on a laissé la place prépondérante à la voiture.
Oui.
Donc des routes, des stationnements, donc beaucoup de surfaces enrobées, asphaltées, donc imperméables, donc avec toutes les conséquences que l'on connaît. Donc il y a beaucoup de communes qui ont pris conscience de ça, et dans cet effort d'embellissement, on commençait voilà, à désimperméabiliser, réintroduire du végétal, et de fil en aiguille, c'est-à-dire on a quitté la chaussée, le stationnement, pour rentrer dans des espaces un peu particuliers, la place de la mairie, la place de l'église, et puis d'autres espaces comme les cimetières. Mais les cimetières sont arrivés un peu en bout de course, parce qu'il y avait cette prise de conscience. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le cimetière, il y avait une dimension un peu psychosociologique, de dire attention, on ne pourra pas faire n'importe quoi, c'est un lieu voilà, qui a une forte dimension symbolique, culturelle. Donc avant d'intervenir, il faut préparer les consciences, les mentalités, préparer aussi d'un point de vue technique les réponses qu'on peut apporter pour ne pas brusquer, pour faire que les réponses alternatives soient acceptées et appropriées.
Étape par étape.
Voilà, politique des petits pas
C'est
pour
ça.
aller loin.
Exactement. Et dans certaines communes, on utilise encore beaucoup le brûleur, que ce soit sur les trottoirs ou dans le cimetière, autour des tombes. Mais je pense surtout aux trottoirs, ça, c'est encore très répandu.
Oui, alors on est là aussi, on parle de transition
Ouais.
écologique. Il faut accepter cette phase un peu de test et d'expérimentation parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, hein. Si on a du recul sur les produits phytosanitaires, les produits chimiques, pendant quasiment un demi-siècle, donc passer là en quelques années à des solutions alternatives, on n'a pas toujours les réponses. Donc il y a beaucoup de communes qui font des tests, qui expérimentent. Qui font marche arrière sur certains choix techniques, notamment les techniques de brûlage. Alors, le brûlage est adapté sur des interventions très localisées, très ponctuelles. On ne va pas entretenir un cimetière par brûlage, ce n'est pas possible. C'est très long, on consomme beaucoup de gaz, puisque c'est souvent au gaz. Donc
Oui.
aujourd'hui, il y a des solutions alternatives de vapeur, d'eau chaude avec certains produits. Mais on s'aperçoit que les communes qui vont le plus loin et qui finalement mettent en place une pratique plus durable, ben, c'est d'accepter l'enherbement, éventuellement enherbement étonte. Mais la particularité, c'est que ces espaces enherbés, qui sont malgré tout régulièrement piétinés, ben, il y a très peu d'entretien finalement. En tout cas, moins d'entretien que ce qu'on peut penser derrière l'idée de laisser enherber un espace de ce type-là. Donc voilà, on expérimente encore, on commence à avoir pas mal de recul. On a par exemple des structures, je vais faire la publicité pour des partenaires, comme Plantes et Cités, dont c'est le métier, c'est-à-dire d'avoir ce travail d'observation, d'expérimentation, de collecte d'expérience. Et sur les cimetières, voilà, on a maintenant des recueils d'expérimentation qui montrent des réponses possibles à adapter en fonction des contextes. Mais aujourd'hui, on a des réponses.
Allez, on continue à explorer les aménagements urbains et paysagers. Et en attendant, on écoute Highway to Hell du groupe ACDC, mais la version 79 avec Bon Scott. Ambiance dans ce milieu de journée sur Radio G. Alors Jean-Pierre Ducos, c'est votre programmation. Dites-moi pourquoi ce choix musical et spécialement pourquoi cette version?
Alors, d'abord parce que c'est ce que vous m'avez proposé en clin d'œil, puisque dans nos échanges, il y avait d'un côté Highway to Hell et Le pouvoir des fleurs de Laurent Voulzy. Et sans
C'était des
avoir.
exemples.
C'était des exemples, je me suis dit, ben oui, mais ça représente bien, je dirais, un peu le paradoxe de nos métiers, c'est-à-dire essayer de rendre les routes, les chemins de la vie un peu plus attractifs, un peu plus apaisés. Alors, le fleurissement peut être une démarche, il n'y a pas que ça. Mais j'ai trouvé la proposition, et en forme un peu de boutade, assez conforme à nos métiers. Voilà, transformer les routes, les autoroutes, les chemins de la vie qui peuvent être en enfer ou qui peuvent mener à un enfer, bah, des espaces apaisés et le fleurissement, en tout cas les aménagements paysagers participent de cet apaisement.
Pour continuer sur le sujet des aménagements paysagers, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un îlot de chaleur, ses caractéristiques en été notamment, et au niveau urbain?
Alors, c'est un très bon sujet. Je vois que vous êtes dans l'actualité, dans des sujets d'urbanisme qui posent question. Ben, un îlot de chaleur, c'est assez simple, comme ce nom l'indique. C'est dans des contextes urbains, en général très urbains, le phénomène d'accumulation de la chaleur. Cette accumulation, alors évidemment c'est en période plutôt estivale et encore plus fortement en période de canicule, le type de revêtement des sols et des espaces bâtis, en fonction du type de matériaux et surtout de la couleur, notamment la couleur foncée, va accumuler la chaleur et notamment en période nocturne va la restituer. Vous avez tous fait l'expérience, hein, lorsque vous avez au soleil une surface noire et une surface blanche, ben vous touchez la surface noire, il y a de fortes chances que vous ne gardiez pas la main dessus parce qu'elle va être très chaude, elle va être plus chaude que la température ambiante. Ben dans les milieux urbanisés, et notamment quand on a beaucoup de surfaces minérales sombres, donc vous voyez tout de suite hein, les routes, les parkings, etc., ben vous allez avoir un phénomène de surchauffe par rapport à la température ambiante. Et donc ça pose question aujourd'hui, on est confronté en période estivale à des périodes de canicule plus ou moins longues, vraisemblablement de plus en plus longues quand on lit les travaux du GIEC. Donc ça veut dire qu'en contexte urbain, il va falloir travailler sur ces îlots, trouver des solutions pour atténuer ce phénomène d'îlot de chaleur, de restitution de la chaleur accumulée en journée. Et donc bah, les réponses, elles passent, je pense que vous pouvez le pressentir, hein, par le fait d'enlever le plus possible ces surfaces minérales, les couleurs sombres, réintroduire ce qu'on appelle le phénomène d'albédo, c'est-à-dire avoir des surfaces claires qui vont renvoyer le rayonnement solaire et pas l'absorber. Et puis surtout, bah, on s'est aperçu là aussi par retour d'expérience que ben, les îlots de chaleur en ville, ils sont sur ces espaces minéralisés et que dans la même journée, à la même heure, ben, entre une prise de température, par exemple sur la place du ralliement ou au jardin botanique, vous avez plusieurs degrés d'écart en faveur des espaces végétalisés.
Mais c'est des fois, ça peut être même extrêmement important.
Ah oui, ça peut aller jusqu'à 15 degrés selon l'endroit où vous vous trouvez, voire beaucoup plus. Donc ce qui veut dire que ben, une des réponses, hein, trouver les moyens de rafraîchir, en tout cas d'éviter l'accumulation, ben c'est désimperméabiliser les sols, introduire du végétal qui va jouer le rôle d'ombrage, mais aussi par évapotranspiration va entraîner assez naturellement un rafraîchissement. C'est un vrai sujet pour les villes de demain, enfin, même dès aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet d'aménagement des villes, et pas que des villes. On pense souvent que ces sujets-là sont réservés voilà, au cœur de ville, etc. Mais vous pouvez très bien voir dans un cœur d'un petit village une place qui va être difficile à vivre l'été parce qu'elle est porteuse des mêmes caractéristiques. Donc cette problématique des îlots de chaleur n'est pas l'apanage ou la problématique uniquement des grandes villes.
On fait de nouveau une pause musicale. On reste dans le thème avec un morceau de Francis Cabrel qui s'appelle « L'arbre va tomber ».
L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. Mais l'arbre va tomber. Le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce.
Il y a bien une question culturelle dans le choix d'abattre ou de planter des arbres. Et cette culture de la biodiversité, du réchauffement climatique, elle est jeune, mais devient centrale dans l'aménagement urbain aujourd'hui. L'éducation et la culture de l'aménagement, qu'il soit architectural ou paysager, semblent extrêmement importants. Et en quoi l'association, elle y travaille ?
Alors, on y travaille pas assez, à mon goût. Dans notre sigle et dans l'émission que j'évoquais tout à l'heure, il y a la notion de diffusion culturelle et de formation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on est une petite structure, 9 salariés. Aujourd'hui, la moitié de notre activité, c'est le conseil aux collectivités locales et le conseil aux particuliers. Donc c'est vrai qu'on est moins présent, moins connu aussi même par le milieu de l'éducation nationale sur ces dimensions de la pédagogie. On pourrait intervenir auprès des scolaires, etc. On le fait de manière très ponctuelle. Mais pas assez à mon goût pour des questions de moyens, de disponibilité, de temps. Alors, il y a aussi une petite dimension stratégique dans le fait d'assumer ses priorités, c'est que pour nous, un des acteurs aujourd'hui essentiels, ce sont les collectivités locales, donc les élus, puisque la compétence d'aménagement du territoire, c'est eux qui l'ont aujourd'hui. Donc, on met la priorité aujourd'hui sur ce type de public, sachant que les citoyens de demain sont les jeunes enfants. Donc, on compte plus sur l'éducation nationale pour relever ce challenge et les former en tant que futurs citoyens. Mais c'est vrai que certains CAE, des collègues, ont des actions beaucoup plus développées sur cette pédagogie de l'environnement. Il y a d'autres acteurs qui existent, il y a notamment les CPIE, les Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement. Voilà, il y a la Maison de la Nature Angers, il y a un certain nombre de structures qui sont là pour ça. Mais oui, peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait qu'il n'y a peut-être pas assez de structures, peut-être que cette culture de l'environnement n'est peut-être pas assez présente aussi dans les programmes éducatifs.
Ça va peut-être venir.
Ça va peut-être venir, oui. En tout cas, ça va devenir une nécessité puisque les citoyens de demain sont les jeunes qui sont aujourd'hui, qui rentrent dans le cycle de formation. Et on voit bien que parfois, ces éléments de connaissance sont assez superficiels. C'est-à-dire qu'ils sont souvent imprégnés de ce que les grands médias, les grandes marques donnent comme message à travers un peu de ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire des messages un peu consuméristes adossés à une culture écologique plus ou moins fondée. Mais je pense qu'il faut qu'ils se fassent leur propre culture donc, en tant que futurs citoyens. Donc on essaie d'y contribuer, mais peut-être pas à la hauteur de l'enjeu. Ça, c'est sans doute une évidence.
Cela dit, vous avez quand même des conférences et puis des expositions à la Maison de l'Architecture qui sont intéressantes. Je pense d'ailleurs à une qui se termine incessamment sous peu, c'est l'exposition sur les fibres végétales dans l'architecture. Je trouve que c'est quand même super intéressant de pouvoir
tout à fait.
Découvrir.
Alors,
ça.
Il y a beaucoup d'outils qui sont accessibles en ligne. Notre site internet, il y a déjà beaucoup d'informations. Comme vous l'avez indiqué, sur Angers, à la Maison de l'Architecture des Territoires et du Paysage, on a un lieu d'exposition qui est ouvert au public. Du lundi au vendredi, avec des expositions toute l'année, 2 à 4 expositions qui se renouvellent. Alors c'est vrai qu'on est un peu loin du centre, on est dans un grand bâtiment historique des années 30 qui est peut-être un peu austère et qui n'incite pas à pousser les portes, mais vous pouvez y aller, vous serez bien accueillis. Et puis il y a effectivement, comme vous l'avez dit, des cycles de conférences qui sont ouverts là aussi au grand public. Donc oui, bien évidemment, dans notre mission de service public d'information, diffusion culturelle, on peut trouver un certain nombre d'informations dans nos champs de compétences, complètement.
C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Ducos. Je vous laisse le mot de la fin. Si les communes, elles veulent faire appel à vous, dites-moi.
Alors, elles seront le bienvenu, bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les communes. Ce sont même la majorité de nos adhérents, puisque le CAE est une structure associative. Alors pour faire appel au CAIE, qu'on soit un particulier ou une collectivité, ben c'est tout simple, vous allez sur le site du CAIE, CAIE 49 de Maine-et-Loire, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir nous contacter. Alors je peux donner le numéro du standard, le 02 41 22 99 99, et en fonction de qui vous êtes et quel est votre sujet, et ben on tâchera de vous répondre ou de vous orienter vers les bons services et les bonnes personnes.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ducos, merci pour cet échange qui, j'en suis sûre, en a éclairé plus d'un sur les missions et l'intérêt de faire appel à votre structure pour faire avancer la question de l'aménagement paysager, la biodiversité et penser les changements climatiques de demain. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour continuer notre transition écologique dans le Maine-et-Loire. Nous parlerons du zéro déchet. À bientôt sur Radio G 101.5 ou sur radio-g.fr.
Y'a qu'à danser, la mer nous donne du poisson. Y'a qu'à danser, les femmes nous donnent des enfants. Y'a qu'à danser, les étoiles nous guident dans l'océan. Y'a qu'à danser, regardez passer le temps.